With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 3 ans et ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes et les enfants à différentes étapes, d'où entre autres la mise en place d'un allaitement serein, en aidant les bébés à téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de familles qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels, tous spécialisés dans le domaine, pour vous apporter, lors d'épisodes experts, les informations les plus justes et savoir comment vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif est simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée, et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce, qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serai très reconnaissante de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Bienvenue aujourd'hui à Jeanne dans Milkshaker. Jeanne est la maman de 2 filles qu'elle allait ou a allaité, et pour qui ce qu'elle pensait être naturel et physiologique comme elle le dit, s'est avéré sacrément complexe. Et ce, à 2 reprises. Je vous spoil l'épisode comme une checklist. Allaitement numéro 1. Douleur, crevasse, bout de sein, abcès, chirurgie et arrêt anticipé. Allaitement numéro 2, douleur à nouveau, bébé qui ne s'accroche pas, crevasse, réflexe d'éjection dysphorique, vasospasme, décision de sevrage et contre toute attente. Allaitement mixte qui permettra de trouver un équilibre tant attendu et de découvrir la beauté et le confort que l'allaitement peut offrir. Pour résumer, Jeanne et ses filles, c'est l'histoire du delta entre ce qu'on a projeté, espéré et ce que la vie nous apporte, ainsi que ce qu'on se sent capable de faire. Et c'est une certaine clairvoyance aussi dans la tempête, suffisante pour se rappeler que ce qui importe le plus, c'est d'abord de se sauver soi-même. Car retenez le plus important, votre bébé a besoin de vous, mais de vous en bonne santé mentale et physique. Prenez soin de vous et écoutez Jeanne, je sais que ce témoignage résonnera pour beaucoup d'entre vous. Et je vous souhaite une belle écoute.
Salut Jeanne, bienvenue dans Milkshaker.
Bonjour.
Alors Jeanne, est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui nous écoutent, nous dire qui tu es, combien tu as d'enfants et ce que tu fais dans la vie?
Oui. Donc, je m'appelle Jeanne, j'ai 36 ans, j'ai 2 enfants, une première Héloïse qui a bientôt 4 ans et une deuxième Joséphine qui a bientôt 7 mois. Dans la vie, je suis une thésarde de longue durée en droit, donc okay. Je suis en train de terminer ma thèse en droit, donc je suis juriste et puis je fais de la recherche.
Ok, et donc du coup tu as allaité tes 2 enfants?
Alors j'ai allaité les 2. De presque 3 mois pour Héloïse, mais donc l'allaitement s'est terminé un peu brutalement parce que j'ai eu un abcès. Et oui. Puis Joséphine, je l'allaite encore. Elle a 7 mois dans 2 jours et voilà, pour l'instant, je l'allaite encore.
Ok, très bien. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que tu t'étais dit avant d'allaiter la première fois? Quels étaient tes objectifs ou quelles étaient tes envies autour de ce projet d'allaitement? Est-ce que pour toi c'était une évidence ou est-ce qu'au contraire tu t'étais dit que c'était pas pour toi?
Alors, je m'étais justement dit que c'était une évidence et je m'étais pas dit grand-chose. Ça fait peut-être, je me suis demandé des fois si ça faisait pas un peu partie des problèmes que j'ai eus, c'est que moi j'avais pas trop d'objectifs. C'est que c'était une évidence d'allaiter. J'avais grandi avec les récits de ma mère qui avait allaité ses 3 enfants. J'avais jamais entendu de récit d'allaitement qui se passait mal. À la limite, les difficultés, je les ai découvertes en faisant des lectures avant mon accouchement ou pendant la préparation à l'accouchement et à la naissance que j'avais fait avec ma sage-femme, qui expliquait qu'il pouvait y avoir des difficultés d'allaitement. Mais moi, j'avais l'impression que c'était quelque chose d'assez naturel, simple, intuitif.
Ouais, tu t'étais dit les galères, ce sera pour les autres, quoi, pas chez moi.
Je m'étais pas forcément dit ça, mais je pense que j'avais pas réalisé que ça pouvait prendre autant de place, les galères. Je m'étais dit qu'il y aurait peut-être des difficultés, mais que ça allait pas être aussi difficile. Je pense qu'après, c'est toujours difficile de se projeter avant d'avoir vécu les choses, avant d'avoir ressenti aussi les douleurs. Et puis, la douleur, elle prend pas toujours la même place, peut-être en fonction de l'état dans lequel on est. Enfin, il y a tout le contexte, en fait. Donc voilà, donc j'y étais pas allée avec trop de projets. Pour Héloïse, je m'étais dit que voilà, c'était sûr que je voulais l'allaiter, ça c'était une évidence. J'avais pas du tout envie de mettre mon enfant en lait artificiel. Enfin, c'était l'évidence que je voulais allaiter. Et j'avais prévu de m'arrêter 4 mois, ce que j'ai fait. Donc je m'étais dit que je voulais être dans un allaitement exclusif pendant 4 mois, et puis qu'après, a priori, j'allais sevrer. À l'époque, je pense que j'avais pas tellement lu que comment pouvait se passer un sevrage, comment pouvait se passer une reprise de boulot avec en parallèle continuer à allaiter. Mais bon, enfin, je pense que j'aurais lu des choses si l'occasion s'était présentée. Mais juste, ça s'est arrêté en fait avant. J'ai pas eu à gérer ce problème-là. Joséphine, nécessairement, j'y suis allée dans un tout autre état d'esprit parce que ayant eu un abcès, c'était très concret qu'il pouvait y avoir des problèmes avec l'allaitement. Mais en même temps, j'avais très envie de l'allaiter quand même parce que j'avais trouvé que l'allaitement, malgré l'abcès, c'était quelque chose de très pratique. Pour la gestion de la fatigue, etc. Ça s'est révélé pas très pratique avec Joséphine, paradoxalement. Et puis, j'avais l'impression aussi que mon expérience d'abcès m'avait appris des choses et que du coup, je ne reproduirais pas les mêmes erreurs et que du coup, ça se passerait sans doute mieux. Et en fait... Sur le long terme, ça se passe mieux, mais le démarrage avec Joséphine, en fait, moi, de mon point de vue, a été pire, en fait. Et j'ai peut-être eu encore plus de galères que pour Héloïse.
Donc, ta première fille, elle arrive. Et là, donc, comme une évidence, tu vas l'allaiter. Comment ça se passe, ces démarrages d'allaitement ?
Les deux démarrages se ressemblent beaucoup. Des bébés qui têtent assez rapidement. Joséphine est à la salle de naissance, Héloïse, non, mais assez rapidement en chambre. Et puis Héloïse c'était la deuxième nuit, Joséphine c'était la première, des bébés qui têtent énormément, branchés pour assurer une belle montée de lait, qui arrivent tranquillement au bout de, je sais plus, ça a dû mettre 2 jours pour Héloïse, 24 heures pour Joséphine.
Ouais, donc efficace.
Super, sortie de maternité avec la courbe de poids qui a recommencé à grimper, donc enfin l'allaitement sur le papier idéal. Pour Héloïse, je ne me souviens pas très bien. Pour Joséphine, tout de suite, j'ai eu des douleurs. Mais à chaque fois, en tout cas, moi, j'ai posé beaucoup de questions. Moi, je suis une bonne élève. Donc, dès qu'il y avait une sage-femme ou une auxiliaire de puériculture qui passait dans ma chambre, je demandais est-ce que ça va la position ? Est-ce que c'est normal ceci ? Est-ce que c'est normal cela ? Et pas du tout de discours alarmant, même sur les douleurs que j'ai mentionnées. Donc, pour Héloïse, je ne me souviens plus très bien. Mais pour Joséphine, je suis sûre d'en avoir mentionné. On m'a dit non, mais c'est pas grave, ça se rôde, ça va passer. Ouais. Et puis, en fait, c'est pas passé.
Oui, le fameux « ça va passer » qui ne passe pas.
Voilà, et en fait, je me suis retrouvée dans les deux cas au bout de 4-5 jours avec des crevasses assez terribles et donc des douleurs assez terribles associées à ça. Et puis, un problème aussi pour les deux, de bébés qui s'accrochent mal. Donc... Et ça, pas du tout au début. Autant au démarrage... à la maternité, des bébés qui têtent non-stop, etc. Et puis, au bout de quelques jours, qui ont du mal, en fait, qui s'énervent face au sein, qui s'accrochent une première fois, et puis au bout de 2 minutes, ils se décrochent, ils pleurent, elles se remettent. Enfin, et du coup, quand on a des crevasses, c'est très pénible, ces moments-là, parce qu'à chaque fois qu'ils s'accrochent, ça refait super mal. Et puis, ça rend l'allaitement un peu pénible, parce qu'on a un bébé énervé. Plus il s'énerve, plus c'est difficile. Enfin, c'est un cercle vicieux.
Ouais. Est-ce que c'était en fait à partir du moment où la montée de lait arrivait que ça devenait douloureux comme ça ?
Peut-être. Alors peut-être que c'est pour ça qu'elles avaient du mal à s'accrocher, parce que moi j'ai quand même une assez forte poitrine, donc peut-être aussi que le sein rempli, ça les aidait pas à s'accrocher sur le sein. Mais j'ai eu l'impression que cette difficulté, elle arrivait un petit peu que le sein soit très tendu ou pas tant que ça.
D'accord.
Je me suis pour les deux interrogée s'il y avait un problème de frein, mais on m'a dit que non. Donc, il n'y avait pas de problème physiologique ou de... On est aussi allé voir pour les deux des ostéopathes pour être sûr qu'il n'y avait pas de problème de nuque coincée, quelque chose qui empêchait le bébé de bien s'installer. Et a priori, non. Et du coup, pour Héloïse, au bout de 10 jours, j'étais à 2 doigts d'arrêter, en fait. J'en pouvais plus, elle hurlait. Enfin, il y avait vraiment une fois où elle... J'ai passé 2 heures avec elle, elle hurlait, elle s'accrochait, elle se décrochait, elle repleurait. Enfin, moi, je n'en pouvais plus. Je pense qu'à 10 jours, on a les hormones qui sont complètement à plat. Donc, on commence à être bien fatiguée. Et puis, moi, j'étais suivie par une sage-femme en ville. Donc, je suis allée consulter. On l'avait dit que s'il y avait des difficultés d'allaitement, j'allais la voir. Et je me rappellerai toujours de cette phrase qu'elle a sortie en disant « Ah oui, votre fille fait vraiment n'importe quoi. » Parce qu'elle avait vraiment le sein en face d'elle, dans sa bouche, dans l'axe, mais elle ne l'attrapait pas. Donc, il y a un moment où je ne peux rien faire. Quoi. Et puis, du coup, elle m'a proposé des bouts de sein. Et là, ça a été absolument magique. Parce que Héloïse a tout de suite accroché avec le bout de sein. Et là, à partir de là, ça a été de nouveau, moi, ce que je me représentais de l'allaitement, quelque chose de simple. Le bébé a faim, on l'installe au sein. Il fallait juste prendre les 3 secondes qu'il faut pour mettre un bout de sein. Et elle s'accrochait, elle buvait. Quand elle avait fini, elle se décrochait. Et assez rapidement, en 10 jours, je pense, les crevasses se sont complètement ont cicatrisé, ont pu faire mal. Avec les bouts de sein, on a un petit... Je me rappelle avoir eu un peu de mal au moment de la prise du sein, mais dans la tétée, rapidement, la douleur des crevasses passe. Et moi, je suis rentrée de ce rendez-vous, mais ravie. Et je me rappelle avoir dit à Héloïse, c'est bon, on va pouvoir continuer l'allaitement. J'avais l'impression que mon allaitement était complètement sauvé. Et c'était pas faux, parce qu'après, ça s'est très bien...
À l'instant T, ça a permis de sauver quelque chose. Mais bon, quand même, là, on a un bébé, alors des formations professionnelles de ma part, mais on a un bébé qui montre une difficulté dans l'accroche au sein, donc sans forcément d'ailleurs qu'il y a un frein en dessous, mais il y a une difficulté, qu'elle soit mécanique, sensorielle ou autre, qui fait que ce bébé, il a du mal à s'accrocher, quoi. On peut pas diagnostiquer comme ça après coup et à distance, mais il y avait une difficulté, en tout cas. En tout cas, les bouts de sein, à ce moment-là, permettent à ce bébé de se remettre à téter le lait maternel.
Exactement. Enfin, je poursuis mon allaitement en pensant que tout allait bien, et ça s'est super bien passé pendant, du coup, 1 mois et demi. Et puis, au début du 3e mois, énorme pic de croissance. Et du coup, cette sensation, je pense aussi qu'elle arrive au début du 3e mois parce que les seins commencent à s'assouplir pas mal. Tout d'un coup, je sens, malgré des seins très mous post-pic de croissance, une masse dans le sein. Là, je me dis, il y a un truc qui est un peu bizarre. Manque de peau, c'était la Toussaint. On était en vacances à la campagne, un endroit où il n'y avait pas de sage-femme. Et donc, du coup, et en plus, ma sage-femme était en congé ce week-end là, donc pas possible de l'appeler non plus. J'ai juste eu au téléphone la mère d'une amie qui est sage-femme, avec qui j'ai discuté, qui m'a dit, bon, c'est sans doute un petit engorgement, donc j'ai commencé les choses classiques, le verre d'eau, la feuille de chou, le chaud, le froid, pour essayer de faire passer, cette masse. Mais alors, par contre, moi, je ressentais une masse, mais il n'y avait pas de rougeur, j'avais pas de fièvre, j'avais pas mal, j'avais juste une boule dans le sein qui partait pas. Et puis, je reviens de congé. Donc, ça faisait déjà une semaine que j'avais cette masse. Je vais voir tout de suite ma sage-femme qui elle dit, c'est très certainement une mastite. Donc, pareil, rebelote. Elle me dit de prendre un tire-lait. C'est vrai qu'à l'époque, j'en avais pas encore loué. Donc, tire-lait, chaud, froid, chou. Et on repart pour une semaine. Et au bout d'une semaine, toujours la masse. Donc, ça faisait quand même 2 semaines que j'avais une masse dans le sein qui ne partait pas.
Ouais. Et donc là, c'est déjà trop long, en fait.
C'est ça, je pense. Et donc, du coup, elle me fait faire une analyse de sang qui avait montré la présence d'une infection, mais rien de dramatique. Je ne sais pas exactement ce qu'elle avait dosé, mais la prise de sang montrait rien de grave, a priori. Et ce jour-là, j'avais aussi fait une séance d'acupuncture. Alors, aucune idée de si ça a joué ou pas. C'est ma généraliste qui fait aussi de l'acupuncture, et elle pense que ça a peut-être joué pour peut-être casser la coque de l'abcès, en fait, peut-être qu'il était là et qu'il était enfermé dans sa coque ou dans sa poche.
Oui, oui. Ouais, le principe de l'abcès, en fait, c'est que la masse finalement de lait qui ne s'est pas. C'est, à la base, c'est un engorgement qui devient plus ou moins une mastite, mais toi, tu n'as pas eu les signes de mastite purement. Et en fait, la collection se. Il y a une coque qui se forme autour, et donc là, c'est plus possible de l'évacuer tout seul, et ça forme un abcès du sein, on appelle ça.
C'est ça que je n'ai pas précisé, c'est que moi, je n'ai détecté aucune mastite avant dans l'allaitement. Je n'ai pas eu de fièvre, je n'ai pas eu les seins rouges, j'ai eu aucun signe laissant supposer qu'il y a eu une mastite non traitée avant cette phase-là, avec cette masse. Et donc, du coup, donc séance d'acupuncture, et le lendemain, j'ai une tétée qui me fait mal. Je décide de tirer mon lait du côté du sein droit, qui était donc le sein où il y avait cette masse. Et puis là, je trouve le lait d'une couleur un peu bizarre. Et je me demande s'il n'y a pas du pus dedans. Donc, j'appelle ma sage-femme, qui me met tout de suite sous antibiotiques. Le jour suivant, le sein était tout rouge, hyper tendu, et j'avais de la fièvre.
Temporise. Ça va, t'as pas l'impression de faire les choses à l'envers.
C'est ça. Et puis, donc, le jeudi, la massage-femme me dit, bon, OK, vous allez aux urgences. Là, il faut quand même voir ce qu'il y a. Et puis là, je vais aux urgences de Port-Royal, qui est quand même une des meilleures maternités de Paris. Et puis, j'y reste 5 heures. Et puis, en fait, il n'en est pas sorti grand-chose, quoi, parce que je n'avais plus de fièvre. Aussi parce que j'avais pris du paracétamol. Le sein était rouge, mais pas non plus moins que la veille. Et puis, j'avais pas vraiment mal, moi. En fait, j'avais des douleurs au moment où je tirais mon lait ou au moment si. Enfin, je mettais plus du coup Héloïse à ce sein-là, mais voilà, j'avais eu des douleurs à tétée, mais j'avais pas le bras ou. Il n'y avait pas de douleur au repos, quoi, on va dire, mis à part une tension. Et donc, du coup, je repars avec, je sais plus, une ordonnance d'ibuprofène et mettre du chaud et du froid dessus, quoi.
D'accord.
Et puis, en fait, ça dure encore une semaine, où ça va, en fait, un peu mieux. J'ai plus de fièvre, le sein n'est plus rouge. Mais bon, je n'allaite plus Héloïse du côté droit, j'allaite que du côté gauche.
Parce que ça te fait mal ?
Parce que... Quand je tire, il y a un peu de pus qui sort. Donc, je me dis, bon, on va peut-être éviter de lui faire boire du lait infecté. Et puis, au bout d'une semaine, ça va mieux. Mais ça, on retrouvait de la souplesse. Mais il y a toujours cette masse. Et il y a vraiment un soir où je me dis, j'en ai ras-le-bol de ce truc. Je masse mon sein un peu vigoureusement, on va dire. Et là, une quantité de pus qui sort. C'était assez impressionnant. Donc là, je me dis, OK. Je crois que là, il n'y a pas de doute. Il est minuit. Le lendemain matin, aux aurores, je contacte ma sage-femme. Je vais la voir. Là, elle dit, OK, il n'y a pas de doute. Donc, vous retournez aux urgences. Je retourne aux urgences. Et là, bon, oui, face à du pus qui sortait en quantité importante, il n'y avait pas de doute. Ils ont fait une échographie qu'ils auraient pu faire une semaine plus tôt. Ils étaient quand même un petit peu mal à l'aise pas apporter une écho une semaine plus tôt. Et puis, y avait un abcès pas petit. Apparemment, on a parlé d'un abcès de la taille d'un œuf. Donc quand même, quand même un abcès assez important. Et du coup, eux m'ont dit en tout cas pas de possibilité de ponction, donc fallait opérer. Et donc du coup, ils m'ont gardé le soir même, il était entre-temps 22h, ils m'ont gardé, donc opération sous anesthésie générale, où on ouvre le sein pour retirer l'abcès. Donc drôle de première séparation avec mon bébé, parce que du coup j'ai passé la nuit... à la maternité. Un peu étrange aussi quand même de se retrouver avec à la fois peut-être un soulagement parce que enfin c'était diagnostiqué, il y avait une solution, mais moi je me suis tout de suite dit que l'allaitement c'était fini. De toute façon, je commençais à en avoir vraiment marre. En fait, ça faisait 3 semaines que je passais mon temps à prendre des douches chaudes, à masser mon sein, à tirer mon lait. Enfin, c'était plus du tout, plus du tout un plaisir. Et puis du coup je me réveille le lendemain matin avec l'infirmière passe en disant faut qu'on vous refasse votre pansement. Je prenais une douche avant et puis là j'enlève le pansement et là j'ai découvert un trou dans mon sein, pas très loin de l'aréole, la taille d'une pièce de 2 euros. Enfin, moi, dans mon souvenir, c'était vraiment immense, avec des mèches qui dépassaient, puisque du coup, il y a une cavité de drainer. Il faut mettre des mèches dedans pour que ça cicatrise par le fond, de ce que j'avais compris. Donc, trois mèches qui sortaient, enfin, une vision assez traumatisante. Et voilà. Et donc, du coup...
Qu'est-ce qu'ils te disent à ce moment-là pour ton allaitement, justement ? Parce que ce qui t'inquiète, c'est de ne pas pouvoir continuer. Ça t'inquiète de ne pas pouvoir continuer ou tu te dis, de toute façon, c'est clair dans ta tête, c'est fini ?
Moi, je me suis... Je crois que je n'ai pas envisagé deux secondes, en fait, de continuer. Je crois vraiment que j'en avais marre. De toute façon, en fait, je ne pouvais plus allaiter à droite, au moins le temps que ça cicatrise. De toute façon, ma cicatrice, elle était trop près de l'aréole pour envisager un allaitement à droite avant très longtemps. J'avais trop peur que l'allaitement à gauche stimule le sein droit et que ça cause plus de problèmes. Et puis, en fait, moi, j'étais encore dans cette idée que de toute façon, je reprenais le boulot un mois plus tard et que de toute façon, l'allaitement, il serait fini. Donc, je me suis dit, bon, t'avais prévu, en fait, de la sevrer un mois plus tard. Voilà, c'est fait, quoi. Moi, mon inquiétude, ça a plutôt été comment je fais pour arrêter la lactation avec un bébé qui tète plus du jour au lendemain. Il fallait que ça s'arrête tout de suite, quoi. Et autant j'ai eu toute la mise en place des soins infirmiers pour les pansements, autant la maternité, je trouve, m'a pas trop aidée là-dessus. Ils m'ont laissé repartir, en fait, avec un sein gauche qui était bien rempli de lait. Là, finalement, j'ai appris à ce moment-là à savoir bien drainer un engorgement sans stimuler, mais en fait, je savais en fait pas bien le faire avant. Donc là, ça, c'était une belle leçon qui m'a été utile pour le deuxième allaitement. Mais par contre, c'était hyper compliqué de le faire à droite parce que en fait, il y avait cette plaie qui était très proche de l'aréole qui m'empêchait de manipuler le sein. Et puis, émotionnellement, c'était hyper dur, en fait. Donc, là-dessus, ma sage-femme et ma généraliste ont vraiment été super parce qu'en fait, je suis allée les voir dans les jours suivants et c'est elles qui ont drainé une fois par jour correctement le sein pour être sûre que ça allait pas faire d'engorgement. Et en fait, la fabrique s'est arrêtée en 4 jours. Ça a été... Je pense que l'anesthésie générale, toutes les émotions, ça a dû, de toute façon, mettre un petit coup à la lactation et puis plus du tout de stimulation.
S'est effondré rapidement. T'en as gardé une trace de quand tu parles de cette cicatrice là, de la taille d'une pièce de 2 euros. Est-ce qu'aujourd'hui t'as encore une trace de ça sur le sein?
Ouais, j'ai une cicatrice vraiment à la limite de l'aréole, donc ça se voit très peu. Après, ça se voit quand même, mais je suis presque contente de l'avoir aujourd'hui. C'est mon petit souvenir de cet allaitement. Voilà, pas besoin de me faire tatouer le prénom de ma fille sur le bras. Moi, j'ai une cicatrice sur le sein. Mais par contre, maintenant, c'est vraiment rien. Et apparemment, on m'avait dit, j'avais fait une échographie quelques mois après, que vraiment, ça avait très, très bien cicatrisé, qu'on voyait presque plus rien à l'échographie. Moi, je me demande si ça n'a pas joué dans les difficultés d'allaitement pour la deuxième quand même. Mais voilà. Je pense quand même que mon sein va bien. Par contre, les pansements ont été très longs. J'ai eu un mois et demi de pansements.
Ensuite, 6 semaines de pansements, ouais, c'est beaucoup. Tous les jours, quotidiennement
Sur la fin, c'était peut-être tous les 2 jours. Mais c'était tous les jours. Et les premiers jours, c'était vraiment douloureux. Enfin, je prenais un antidouleur avant que l'infirmière passe parce qu'il fallait retirer une mèche et ensuite venir la remettre... très au fond, en fait, enfin, parce que c'était très, très profond.
Oui, et ça faisait vraiment un trou.
Ouais, il était gros et il était bien en dessous. C'est-à-dire que je crois que c'était une gynécologue qui m'a opérée, mais qui fait de la chirurgie, visiblement. Enfin, bref, la personne qui m'a opérée m'avait dit qu'elle avait, quand elle a ouvert, un instant, elle s'est dit, mais mince, est-ce qu'il y a vraiment un abcès ? Il est où ? Et ils ont dû vraiment descendre bas, en fait, pour le trouver. Donc, il était vraiment profond, il était gros. Donc, des pansements, quand même assez lourds, assez longs.
Ok. Et aujourd'hui, tu n'as pas gardé de traces, tu vois, en dehors de la cicatrice, évidemment, qui est là, ça, j'avais compris, mais tu n'as pas de traces, tu vois, d'un creux dans le sein. On dit toujours que la nature n'aime pas le vide et qu'elle vient le recombler. Tu n'as pas gardé de séquelles de ce côté-là, visuellement, tu vois, en dehors de la cicatrice, le corps a récupéré.
C'est vraiment assez incroyable.
Ça, c'est bon pour les mamans à savoir, parce que moment, tu as été hyper choquée, c'était impressionnant, mais aujourd'hui, tu as récupéré ta poitrine telle qu'elle.
Oui, oui, complètement. Et ça, c'est sûr que sur le coup, y a vraiment un aspect choquant. Enfin, moi, je me sentais mutilée, quoi, d'une certaine façon. Et en fait, le corps se régénère. Et, Et voilà, même si le deuxième allaitement a été compliqué, et c'est peut-être en lien avec ça, j'ai aussi pu allaiter la deuxième, y compris du sein droit. Donc, je veux dire, ça... peut-être qu'il y a d'autres cas d'abcès, ça, je ne sais pas, qui peuvent mettre des difficultés, mais ça, enfin, voilà, ça, on peut aussi pleinement guérir, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, le corps est assez incroyable, moi, je trouve, sur ces aspects-là.
Ouais, ouais, ouais. C'est plus difficile, c'est vrai, de se remettre sur ces cicatrices, hein, où c'est une ouverture totale, que sur les drainages. On en parle dans l'épisode d'Elsa, là, hein, qui est sorti en janvier 2022, si vous écoutez cet épisode dans longtemps, où elle, sur son deuxième abcès, justement, elle a pu avoir une ponction de l'abcès, et ça a été beaucoup plus simple pour se remettre, ça permet de continuer d'allaiter, parce que finalement, la plaie est beaucoup moins soumise à infection, etc. Là, dans ton cas, c'est vrai que c'est impressionnant dans les démarrages d'avoir une cicatrice pareille.
Oui. Après, j'aurais eu un projet d'allaitement long. Je pense que ça aurait été possible de le mettre en œuvre aussi. Hein. Je pense que ça aurait été possible d'allaiter que à gauche, soit d'allaiter que à gauche pour toujours, soit peut-être même de relancer ensuite une lactation à droite au bout de 2 mois plus tard. Je sais pas si c'est possible, mais enfin, je pense que si j'avais tout vraiment voulu, ça aurait été possible. Si c'est voilà, moi c'était.
Toi, c'était à cet instant-là, ça signait la fin de cette histoire-là. T'étais de toute façon dans une dynamique où tu voulais, où tu t'étais dit que t'arrêterais au moment de la reprise du travail. Donc c'était finalement avancer un petit peu le timing que t'avais prévu initialement.
C'est ça. Et l'autre chose aussi, parce qu'on est toujours deux dans des histoires d'allaitement, c'est que. Héloïse a très bien pris le biberon. Je crois même, en fait, bon, du coup, dans toutes ces histoires, elle avait pris, et c'est pas plus mal, elle avait pris son premier biberon entre mes deux passages aux urgences, quoi, en gros, parce que j'avais plus assez de lait, en fait, en allaitant que d'un côté. Et en fait, j'ai eu un peu l'impression qu'effectivement, elle avait eu des difficultés aussi à s'accrocher, et qu'avec le biberon, le lait qui coulait tout seul dans la bouche, ça lui convenait très, très bien. Et du coup, elle m'a énormément aidée là-dedans. Alors, je pense qu'elle a dû sentir hein, que de toute façon, il n'y avait pas l'option on continue. C'était le bib ou rien. Mais ça lui a convenu. Et quand je suis revenue de la maternité, forcément, je l'ai prise dans les bras. Je ne l'avais pas vue depuis presque 24 heures. Et quand, je pense comme beaucoup de bébés, hein, quand Héloïse voulait téter, elle ouvrait la bouche et elle tournait la tête vers mon sein. Et donc, elle l'a fait, je l'ai prise dans les bras, elle s'est tournée vers mon sein. Et là, je lui ai dit, non, Héloïse, c'est fini, il n'y a plus de lait. Mais par contre, on peut faire des câlins, on a fait un gros câlin. Et elle n'a plus jamais ouvert la bouche en tournant sa tête vers mon sein de toute la vie, quoi. Et je trouve ça assez incroyable de voir comme... moi, je pense que les bébés comprennent beaucoup de choses. Et de voir... enfin, elle m'a aidée, quoi. Elle m'a vraiment aidée. Et je n'ai pas l'impression, après... je pensais quelque chose dont je lui parlerais. Je pensais pas anodin dans son parcours, elle aussi, hein, d'avoir eu un sevrage aussi brutal. Mais voilà, j'ai l'impression qu'elle l'a pas trop mal vécu. Et ça m'a aidé aussi quand même, moi, à dépasser cette histoire.
Oui, et puis bah voilà, on a une Héloïse qui, voilà, ne l'oublions pas, n'arrivait à téter qu'avec les bouts de seins dans un démarrage. Donc peut-être que, en effet, ce biberon qui arrive et qui est facile à attraper, pour elle, quelque part, c'est une solution aussi. Peut-être qu'il y a de la simplicité là-dedans. Et puis, en effet, tu as raison, les bébés savent ce qui se passe. Ouais. Et quand la décision, elle est ferme et définitive, parce qu'il n'y a pas le choix autrement, ils le ressentent très bien et ils s'adaptent à la situation.
Ouais, tout à fait.
Très bien. Donc du coup, ce premier allaitement s'arrête, un peu brutalement, mais voilà, t'es dans une acceptation par rapport à ça, t'es ok avec ça. Combien de temps après arrive la petite Joséphine ?
Donc Joséphine, elle arrive 3 ans plus tard. Et puis, comme je le disais, hein, un démarrage, je trouve, assez similaire. Un accouchement qui s'est forcément donc un petit peu, enfin, un peu plus satisfaisant, on va dire, plus rapide aussi quand même, parce que c'est une deuxième. Et puis, mise au sein rapide, montée de lait rapide, des douleurs dès le début. Et ça, moi, j'ai tout de suite posé des questions. Et ça, je pense que c'était une des choses qui n'était pas facile, c'est que je ne me souvenais plus exactement quelle était la douleur des crevasses, quelle était la douleur qui était liée un peu à l'abcès, enfin, les gènes de l'abcès, c'est-à-dire que quand, sur la fin de l'abcès, je tirais mon lait et qu'il y a du pus qui sort, en fait, c'est un peu épais, ça fait quand même un petit peu mal dans les canaux. Et du coup, je mélangeais, je pense, un peu toutes les sensations. Et du coup, je ne savais plus trop si les douleurs que je ressentais au début, qui n'étaient pas très fortes, hein, mais est-ce que c'était normal, que c'était la mise en place de l'allaitement, le rodage, ou est-ce qu'il y avait un truc qui était déjà en train de pas très bien se passer ? Mais là encore, alors je m'étais préparée un petit peu différemment. Je n'avais pas trop relu de choses au niveau livre, etc. Peut-être que j'aurais dû, en fait, rétrospectivement. Mais par contre, j'avais changé de sage-femme parce que j'avais voulu être accompagnée en aptonomie pour cette grossesse-là. Et qu'il se trouve que non seulement elle faisait de l'aptonomie, mais elle accompagne aussi les allaitements. Et donc, on en avait discuté ensemble avant. Et je m'étais dit, là, pour le coup, s'il y a le moins de problèmes, la sage-femme, je la vois tous les jours s'il le faut. Mais hors de question que ça reparte dans le décor comme le premier allaitement. S'il y a une mastite, je veux passer à côté, quoi. Et elle était tout à fait d'accord sur le fait que avec un antécédent d'abcès, il fallait un peu surveiller les choses. Donc, elle était très disponible pour moi. Mais donc, passage à la maternité. Il se trouve que je suis sortie un vendredi. Elle était partie en week-end un peu avant. Donc, on ne s'est pas vus avant le lundi suivant avec ma sage-femme. Par contre, j'ai vu une sage-femme du Prado. Donc, une sage-femme à domicile le week-end suivant mon allaitement. Et les sages-femmes de la maternité et la sage-femme du Prado ont dit non, il n'y a rien de grave, c'est en train de se faire. Le lundi suivant, donc J+5 de mon accouchement, quand ma sage-femme me voit, elle fait quand même. quand même, en fait, là, il y a des belles crevasses. Non, en fait, ça ne doit pas faire mal. Donc là, va falloir régler le problème, quoi. Et là, en fait, je suis partie pour un mois compliqué. Alors, je pense que c'est même pas la chronologie qui... Enfin, je ne sais même pas comment parler de ce premier mois, tellement ça a été chaotique. Parce que, donc, il y a eu des crevasses très, très importantes qui, par moments, se sont un peu résorbées et des moments où ça allait de nouveau moins bien. Donc, des douleurs, on va dire, en permanence pendant le premier mois. C'était l'hiver, moi j'ai accouché, j'étais malade, forcément j'ai filé ma toux au bout de quelques jours à Joséphine, donc Joséphine a été un peu enrhumée, donc rien de grave, mais je pense que ça aide pas un bébé à téter très bien ou à prendre du poids, et donc ça il y a eu la petite inquiétude la deuxième semaine, elle ne prenait pas de poids, donc ça a rajouté une pression sur mon allaitement, ça se passe pas bien, j'ai des crevasses et elle prend pas de poids. Joséphine est un bébé qui dort très bien et ça nous l'a montré dès la deuxième nuit, donc elle faisait des plages assez longues, même la nuit de 5 heures, ce que toutes les mamans rêveraient d'avoir, sauf que là en fait comme elle prenait pas de poids, il a fallu la réveiller, elle ne se réveillait pas, donc on passait avec mon mari 1h30 à la stimuler et puis ensuite elle passait 1h30 à hurler devant le sein parce qu'elle aussi elle avait du mal à s'accrocher. Et pour le coup, de mon côté, toute la physiologie de l'allaitement que j'avais bien ressentie pour Héloïse, le côté où les hormones soutiennent la fatigue, en fait, en aidant à se réveiller dès qu'on entend le bébé pleurer, pouf, on est réveillé, on le met au sein, on se rendort tout de suite. Moi, j'ai fait du cododo pour les deux. Héloïse, une fois qu'elle était installée au sein, avec les bouts de sein, moi, je me rendormais et puis je me réveillais au bout d'un moment. Oh, elle dort, je la remettais dans son lit et mes nuits étaient à peu près correctes. Là, je mettais beaucoup de temps à sortir de mon brouillard quand elle se réveillait la nuit. Et puis, elle mettait beaucoup de temps à être au sein. Donc, entre-temps, j'étais très réveillée. Et puis, en fait, je ne me rendormais pas du tout pendant qu'elle tétait. Peut-être aussi parce que j'avais mal. Donc, moi, j'étais quand même très, très fatiguée. Ouais. Donc, tout ça a fait un mois très, très fatigant. Et donc, face à ça, on a cherché des solutions. Forcément, on a évoqué de nouveau les bouts de sein. Moi, j'étais quand même pas fan parce que c'est peut-être quelque chose qui a joué dans mon abcès.
On ne sait pas. En tout cas, on a un bébé qui n'arrivait pas à s'accrocher au sein, donc qui éventuellement avait un problème de succion qui peut-être drainait pas bien le sein. Et on rajoute à ça un bout de sein qui, si jamais vous ne savez pas ce que c'est, est en fait comme un embout en plastique qu'on vient ajouter sur le sein et qui est un peu préformé, ce qui fait que les bébés ont un peu plus de facilité à l'attraper qu'un sein classique s'ils ont un problème avec leur succion. Mais ce bout de sein-là fait que le transfert de lait peut être moins bon et éventuellement favoriser tout ce qui est engorgement, mastite, abcès. Donc voilà, de toute façon, ce qu'il faut se souvenir avec les bouts de sein, c'est que c'est toujours une solution assez transitoire, normalement.
C'est ça. Donc du coup,
il faut essayer de les enlever.
On l'envisage quand même, on fait même un essai, mais je ne sais pas si c'est Joséphine qui n'est pas du tout comme sa sœur, ou moi, où elle a senti que je n'étais pas convaincue, mais en fait, Joséphine n'a jamais accroché avec les bouts de sein. Donc elle s'accrochait limite encore moins bien quand il y avait le bout de sein que sans bout de sein. Moi, j'ai fait une tétée avec un bout de sein, j'ai senti que ça ne drainait pas bien. Donc, je me suis tout de suite dit, ah non, j'ai des crevasses, je ne vais pas en plus avoir un abcès. Enfin, là, non. Ouais. Et puis, voilà, ça ne réglait pas le problème. Elle, globalement, elle n'en voulait pas. D'ailleurs, Héloïse a eu une tétine, Joséphine n'en a jamais voulu. Enfin, je pense que Héloïse avait un rapport au plastique différent de ce qu'a Joséphine. Donc, du coup, les bouts de sein, ça ne fonctionnant pas, il a fallu travailler la position. Et je pense que là-dessus, moi, j'ai été désavantagée un peu par deux choses par rapport à la position. Visiblement, ça ne se faisait pas naturellement, parce qu'il y a des femmes qui ne se posent pas 10 000 questions sur la position et de façon un peu instinctive, elles placent correctement le bébé s'installe bien, ou même dans une mauvaise position, tout se passe bien aussi. Moi, visiblement, il fallait travailler la chose. Moi, je me suis dit déjà que, en fait, je pensais être forte de ma première expérience d'allaitement, mais en fait, je pense que les bouts de seins avaient créé un tropisme. Parce qu'en fait, une fois qu'on a les bouts de seins et que le bébé est bien installé, on peut se mettre dans la position qu'on veut quelque part. Ça ne fait plus mal, ça ne fait plus de crevasses. Donc, je pense que j'avais pas eu de si bons réflexes que ça dans le placement d'Héloïse. Et du coup, j'ai voulu allaiter peut-être un peu pareil Joséphine, mais sans les bouts de seins, en fait, sans la médiation du bout de seins, en fait, la position n'était pas terrible.
Et est-ce qu'il y a un thérapeute manuel qui passe par là ?
Moi, j'ai vu un ostéopathe. J'ai fait avec ma sage-femme, on a fait des mises au sein ensemble pour regarder comment ça se passait.
Ça se passait bien pendant ces mises au sein-là avec la sage-femme ?
Compliqué. Elle m'a beaucoup corrigée, etc. Mais du coup, moi, je pense aussi, en fait, j'ai une forte poitrine. Et en fait, je pense que ça me gênait dans le positionnement de mes filles, mais notamment de Joséphine. C'est tout bête, mais en fait, dans les photos, les vidéos, enfin toutes les représentations qu'on a d'allaitement qu'on trouve, d'illustration, c'est souvent des poitrines moins importantes. Donc, on voit le bébé mis assez haut. En fait, moi, avec une forte poitrine, en fait, il faut mettre le bébé assez bas parce que mon sein est assez bas. Et ça, je crois que déjà, j'ai compris, en fait, un peu tardivement, en fait. Et je pense que je me suis aussi tellement pris la tête que plus rien n'était très naturel là-dedans. Ouais. Regardez, je pense, toutes les vidéos de la Leche Dig qu'il y a sur YouTube sur les mises au sein, quoi. En essayant de comprendre. Je veux dire, il y a un moment, j'avais vraiment l'impression que la mise au sein de Joséphine, c'était de pluguer un satellite sur une station spatiale, quoi. Enfin, je veux dire, j'avais l'impression d'être dans une espèce de prise de tête et en même temps d'observer ensuite comment était mon sein à la sortie de la tétée, qui ressortait souvent un peu aplati. Mais je me suis dit, quand j'en parlais avec des copines qui avaient allaité, elles me disaient, mais qu'elles s'étaient jamais posé ces questions-là, en fait.
Oui, il n'y avait rien qui se passait naturellement.
Voilà, le faire naturellement, visiblement, ça ne fonctionnait pas. Enfin, ça conduisait à des crevasses, mais se prendre la tête n'était pas en train de très bien fonctionner. Et en fait, quelque chose qui, moi, dont je suis à peu près certaine, donc après, je ne sais pas s'il y a du coup un diagnostic qui n'a jamais été fait parce que je n'ai pas croisé le bon professionnel de santé, mais c'est que Joséphine, je pense, ouvrait pas hyper grand la bouche, mais quand même finissait au bout d'un moment par l'ouvrir, mais elle refermait sa bouche en cours de tétée. Donc, le positionnement, au bout d'un moment, en fait, ça se fait à deux, quoi.
Ouais, ça ressemble à nouveau à une problématique de succion, quand même.
Voilà. Mais, enfin, je sais pas si toi, t'as des idées qui te viennent de...
Ah oui, j'ai envie de l'avoir dans les mains, là.
Je peux te l'amener. C'est vrai qu'il pourrait y avoir d'autres que pas de frein, pas de problème de torticolis, de machin. Donc, c'est ça que je trouve très compliqué aussi, c'est que moi, j'ai essayé de m'entourer de professionnels qui, à la fois, sont spécialisés, enfin, aussi bien l'ostéopathe que j'ai vu est spécialisé en pré- et post-natal et voit beaucoup de nourrissons. Ma sage-femme, elle suit l'allaitement, elle est notamment spécialisée là-dedans. C'est des professionnels en qui j'ai confiance. Donc, c'est compliqué. C'est vrai que, d'une certaine façon, j'ai pas eu d'explication exacte de ce qui s'est passé. Plutôt le côté, l'adéquation s'est pas bien faite. Mais en même temps, j'ai pas eu envie de faire un espèce de tourisme médical pour que quelqu'un me donne, me disent peut-être ce que j'avais envie d'entendre. Et puis c'est compliqué en postpartum parce que ça se passe en fait sur quelques semaines où au milieu de tout ça, on est crevé, on est...
Il y a déjà un enfant dans l'équation.
Donc, 4 semaines, c'est long quand on a mal, mais en fait, c'est très court dans les réflexions qu'on a, même le temps de se dire « je pourrais aller voir quelqu'un d'autre ». Bon, enfin, il y a déjà en fait 2-3 semaines qui sont passées et on est dans une situation où, enfin voilà, moi, au bout de 4 semaines, en fait, c'est pour ça que j'ai entrepris un sevrage, j'avais juste plus vraiment envie non plus, en fait. Enfin, j'étais dans l'ambivalence, mais j'étais plutôt dans cette optique-là, plus que dans une optique d'aller voir quelqu'un qui potentiellement n'aurait pas non plus de réponse à mes problèmes. Et surtout, il y a quelque chose qui s'est mis en place et. Là, ça, c'est très personnel, hein, c'est que tout ça a fait... Bon, déjà, aussi, si je ne l'ai pas fait, c'est parce qu'il y avait des mieux. Régulièrement, déjà, les crevasses, au fil des semaines, se sont quand même améliorées. Il y avait des moments où vraiment, à plusieurs reprises, je me suis dit, ça y est, je tiens le bon bout, c'est en train de se régler. La mise au sein aussi, il y avait des fois où elle prenait très bien le sein, d'autres étaient où elle le prenait moins bien, elle avait moins de difficultés à s'accrocher. Le rythme commençait à se faire, elle prenait du poids, donc c'était réglé de ce côté-ci. Donc, sans arrêt, moi, je me suis dit, bon, bah, ça y est, on tient le bon bout. Et puis, en fait, c'était en dents de scie, en fait. Ça valait mieux, et puis, de nouveau, ça allait pas bien. Et donc, pendant toute cette période, j'ai été à osciller entre est-ce que j'entame un sevrage, ou est-ce que je m'accroche. Et en même temps, avec aussi le problème qu'entamer un sevrage dans le courant du premier mois, c'est en fait hyper compliqué, parce qu'en fait la lactation est pas très bien installée, donc si on fait n'importe quoi, elle peut se casser la gueule et ça peut être fini. Et en même temps, faire un sevrage au milieu des pics de croissance, ça marche pas très bien. On supprime une tétée pour mettre un biberon et elle en met 4 derrière parce qu'elle est en pic de croissance, quoi. Donc en fait, c'est moi, je me suis retrouvée, je me sentais un peu coincée aussi, en fait, dans l'impression de pas pouvoir prendre une décision, enfin de pas pouvoir faire un choix, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, j'en avais encore pour 2 semaines de sevrage extrêmement chaotique, avec des risques d'engorgement, avec un risque d'abcès. Enfin, donc moi,
oui,
je me suis
vraiment...
vraiment
pas ta première expérience qui.
Ouais. Oui, qui je pense planait un petit peu quand même au-dessus de ma tête. Hein. Je pense qu'elle jouait à la fois dans le fait d'avoir le risque était devenu très réel, quoi. Et puis aussi, avoir une expérience d'allaitement compliqué, c'est une chose. En avoir deux, j'ai commencé à me dire que c'était vraiment moi qui faisais mal, que c'était vraiment moi qui avais un problème, que vraiment, j'étais pas douée. Et puis, je pense que je l'avais pas mesuré, mais en fait, il y avait quelque chose à réparer d'une certaine façon. C'est que j'avais décidé d'allaiter Joséphine, pas par revanche, mais j'avais quand même bien envie que ça se passe mieux. Et en fait, c'était en train de se passer moins bien. Donc ça, c'était un peu douloureux. Mis tout ça dans le postpartum, ça fait pas une bonne sauce du tout.
Oui, ça fait une période un peu compliquée.
Voilà. Et du coup, je me suis retrouvée au bout d'un mois avec tout ça qui a commencé à vraiment me taper sur le système, quoi. Il y a eu, c'était le 25 décembre, ça s'oublie pas, hein, quand même. On a mieux à faire que le jour de Noël que péter un câble. Mais j'ai fini, j'avais de nouveau hyper mal. J'étais pas bien, je me suis énervée sur mon aînée, je ne sais même plus pourquoi, mais elle s'est mise à pleurer, je la sentais triste aussi, en fait, parce que j'étais pas très disponible, hein. De toute façon, je pense qu'un premier mois, quand on allait, on n'est pas très disponible pour l'aînée, mais alors quand ça se passe mal et qu'on passe en plus le peu de temps libre qu'on a à mettre des crèmes, mettre de l'analonine, faire des compresses de lait, enfin, c'est infernal. Et en fait, ouais, j'ai planté la famille, on était... dans une location en bord de mer, j'ai planté tout le monde, je suis sortie et je suis allée me promener toute seule sur la plage en pleurant. Et avec cette idée, enfin déjà j'étais très triste, je me sentais très nulle, j'avais l'impression que mon corps me faisait défaut, en fait. Je me suis dit, enfin, qu'est-ce que je fais mal? Et si je fais pas les choses mal, ça veut dire que c'est moi fondamentalement qui ai un corps pas fait pour l'allaitement, c'est complètement injuste. Et puis avec cette idée qui revenait dans ma tête de... là, tu devrais te casser, quoi. Tu devrais, j'étais en train de me dire, mais enfin, où est-ce qu'il y a une garde en coin et où est-ce que je m'en vais, quoi. Donc là, il y a eu tous les signaux d'alerte dans ma tête qui se sont allumés. Okay, là, tu es en train d'aller droit dans la dépression postpartum, ça ne va pas du tout. Et donc, du coup, le lendemain, je me suis dit, ok, là, on va entamer un sevrage parce que c'est ma santé mentale, en fait, là, qui est en jeu.
Bien sûr.
Et du coup, j'ai entamé le sevrage à ce moment-là. Alors, il y a deux choses quand même, oui, j'ai oublié de parler là-dedans, qui ont complexifié quand même aussi ce premier mois que j'ai compris plutôt au moment du sevrage, c'est que déjà j'avais un vasospasme. Et du coup, ça, c'est sans doute ce qui explique déjà que j'avais des douleurs entre les tétés et pas seulement pendant la tétée. Et ça, je crois que c'est quand même... les crevasses, c'est pas censé faire trop mal entre les tétés. Au moins, j'étais même entre les... en dehors des tétés.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et notamment, j'avais mal quand c'était l'hiver, et j'avais très mal quand j'étais dehors et que j'étais dans le froid, en fait. Je me couvrais pas mal. Je ne sais plus exactement à quel moment j'ai compris qu'il y avait un vasospasme, donc j'essayais d'apporter du chaud. Mais du coup, j'avais aussi mal entre les tétés à cause de ça. Et ça, je pense que c'est aussi ce qui a joué sur le fait que, même en corrigeant la position d'allaitement, en ayant les crevasses qui commençaient à se résorber, j'avais toujours des douleurs.
Ça donnait quoi comme douleur ? C'était des douleurs vraiment au niveau du mamelon ? Ça allait plus loin dans le sein ?
Non, c'était vraiment lancinant. Je sentais que ça irradiait jusque dans le dos par moment.
Ok, des deux côtés.
Des deux côtés, mais beaucoup plus fort à droite, qui est le sein qui a été opéré. Donc moi, je me suis demandé si c'était pas lié à ça. Maintenant, j'ai aussi un vasospasme à gauche. Et je sais même plus comment est-ce que j'ai découvert ça. Hein. J'ai peut-être tapé douleur, allaitement, froid, puis je suis tombée là-dessus. Et là, j'ai compris aussi que ce qui est symptomatique du vasospasme, c'est que le mamelon se décolore justement et est tout blanc. Et moi, par contre, j'ai jamais trop observé ça à la sortie de la tétée, mais par contre, je l'ai régulièrement dans la journée, en fait. Enfin, après, je ne vais pas regarder mes seins non-stop, mais très souvent, quand je me suis retrouvée à mettre de la crème, à sortir de la douche, j'avais très souvent le bout du sein blanc. Ou alors violacé. Donc, c'est assez symptomatique. Oui, je crois.
C'est vrai que je redemande à un expert, parce qu'il n'y a pas d'épisode expert sur ce sujet-là, mais ça va être l'occasion de...
Surtout que je crois que c'est une douleur qui ressemble beaucoup à la candidose.
Ouais, ça ressemble.
Et qu'on a du mal à distinguer les deux. Parce que récemment, parce qu'en fait, ce vasospasme, il continue là, à 7 mois. Récemment, j'ai de nouveau eu des douleurs qui me faisaient penser, pour le coup, à une sensation de grains de sable coincés dans le sein, quoi. Comme une petite démangeaison. Donc là, je me suis dit, mince, après toutes les galères que j'ai eues, je me tape aussi une candidose. Bon, en fait, on a traité la chose pour une candidose, mais en fait, très certainement que ça n'en était pas, parce que pas de douleur à gauche, que à droite, pas de muguet dans la bouche de Joséphine. Et puis, en fait, je pense que c'était juste que... moi, je crois qu'au-delà de 2 tétés par jour, les douleurs chez moi, elles reviennent. Et je pense que c'est lié sans doute au vasospasme. Il ne faut pas trop stimuler le sein, quoi. Donc, il y a ça qui, je pense, a rajouté des douleurs du coup permanentes, quoi.
Hein, c'était... Il faudra que je demande à un expert, mais je crois qu'il y a une des causes de vasospasme. Il me semble qu'il y a aussi les troubles de succion, en fait.
Oui.
Nourrisson.
C'est ce que j'avais lu.
Je referai le point avec tout ça, sur tout ça avec un expert après, ce sera intéressant, tu vois, qu'il puisse écouter ton témoignage et apporter des infos.
Ce que j'avais lu, c'est que ça peut être la position, et donc la succion, et aussi des antécédents chirurgicaux sur le sein. Bon, je cochais les 2 cases, donc je n'ai pas été trop surprise de potentiellement l'avoir.
Alors du coup, comment tu l'entreprends, ce sevrage-là ? Parce que du coup, là, on est à 1 mois, tu allaites quand même exclusivement.
Ouais.
Si j'ai bien compris, il n'y a pas de biberon jusque-là, il n'y a pas d'apport d'un autre lait. Comment tu le mets en place, ce sevrage ? Parce qu'avec la peur en même temps de t'engorger, etc., pour avoir été quelqu'un qui avait beaucoup de lait, je sais que c'est un peu on panique un peu à l'idée de sevrer.
On y va mollo, très clairement. Donc on a mis en place, on a mis le biberon en gros du milieu de journée, aux alentours de midi. Enfin, la tétée a été remplacée par un biberon, de lait artificiel. Et comme on était quand même encore dans un rythme de tétée assez chaotique et des pics de croissance qui se baladaient, en gros, moi, j'avais un peu des plages horaires, quoi. J'allaitais de 6h à 11h et je faisais une pause ensuite de 11h à 16h, quoi. Puis je réallaitais sur le reste de la journée. Et puis, 5 jours, ça s'est bien passé. Hein. 5 jours plus tard, j'ai pu en supprimer un deuxième. Donc, je sais plus ce qu'on avait fait. C'était plutôt le soir. Et puis, bah là, en fait, elle a aussi complètement supprimé les tétés la nuit. Là, il y a eu quelques jours un peu tendus quand même parce que, ouais. En fait, elle a supprimé 2 tétés. Mais pour le coup, je pense vraiment que ça, l'expérience de l'EPSEM m'avait vraiment appris à faire attention aux engorgements du sein, etc. Donc, j'ai fait super attention. J'ai pris plusieurs douches par jour au besoin pour exprimer un petit peu de lait sans en exprimer trop pour pas que ça stimule.
Ouais. Juste soulager sans, voilà. Sans stimuler.
Et dans tout ça, j'ai vu ma sage-femme hyper régulièrement pour faire checker par une professionnelle qu'il y avait vraiment pas de problème. Et ça, je pense que c'est hyper important quand on se galère d'être accompagné, hein, parce que on en a besoin sur le plan psychique et puis ça évite qu'il y ait des choses qu'on détecte pas en fait. Et en fait, ça a duré à peu près 15 jours. En 15 jours, on était descendu à 2-3 tétés ou 2-3 biberons en fonction des jours, quoi. Et puis, les douleurs se sont arrêtées à ce moment-là, à peu près. Enfin, en tout cas, elles sont devenues très supportables.
Donc, les douleurs du moment de la tétée ou les vasospasmes ou les deux?
Ouais. Les crevasses, c'était terminé. Donc, il n'y avait plus de douleurs au moment de la tétée. Et entre les tétées, j'avais pas ou peu de douleurs. Et du coup,
Tu t'es dit pourquoi arrêter, là?
Je me suis un peu ça. Je me suis dit, je vois pas l'intérêt de retirer une tétée de plus. On va bien voir si ça tient. Et puis, en fait, ça a tenu. De temps en temps, il y a eu des pics de croissance. Donc, c'est plutôt l'allaitement qui a encaissé les pics de croissance. De temps en temps, ça me refaisait mal. Est-ce que c'est la succion? Est-ce que c'est le vasospasme? Je ne sais pas. Mais donc, du coup, souvent, quand j'étais au-dessus de 3 tétés, j'avais de nouveau mal. Donc là, je me disais, on rebascule, on redescend. Ouais. Mais en fait, en faisant ce jeu de 2-3 tétés, de temps en temps 4, on a poussé l'allaitement jusqu'à son entrée en crèche quand elle avait un peu plus de 4 mois. Et puis, les premiers mois, le premier mois et demi où elle était en crèche, j'ai tiré mon lait en journée parce que j'avais justement pas envie que la lactation s'effondre. Parce qu'entre-temps, je commençais à bien aimer allaiter.
Du coup, tu as repris plaisir. Parce que si on enlève les contraintes, 3 tétés dans la journée, un bébé qui est pas dépendant de nous et tout, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, ça devient quand même super confortable, cette histoire.
C'est ça, c'est que je pense qu'il y a eu l'effet, déjà j'avais plus mal, donc plus de douleur, c'est quand même en fait, ça change la vie.
Enfin, ouais.
Effectivement, la liberté que donne l'allaitement mixte, dans les semaines qui ont suivi la mise en place de l'allaitement mixte, je suis allée me faire une journée de hammam avec ma mère et ma sœur, et j'ai pu partir pendant plusieurs heures. Et ça, franchement, c'est sûr que j'ai pu aussi commencer à sortir. On a pu ressortir avec mon mari. Pas de problème, on l'a laissé avec un biberon. Donc après, bien sûr, faut voir en fonction des heures. Parce que c'est quand même des phases où on a des montées de lait et où faut pas se faire avoir d'une tétée. Parce que la tétée suivante, elle est potentiellement vraiment dans longtemps. Donc, fallait faire attention à ça. Mais c'est sûr que ça m'a donné une liberté. En tout cas, moi, qui m'a plu, qui peut-être, en fait, me correspondait peut-être mieux. Et surtout, compte tenu d'à quel point ça avait été compliqué, moi, j'en avais vraiment, vraiment besoin, en fait, je crois, de prendre du temps pour moi aussi, de retrouver une liberté corporelle, en fait. L'allaitement, ça a toujours un côté un petit peu aliénant. Mais quand, en plus, c'est associé à des douleurs, c'est très aliénant, en fait. Donc là, ça m'a vraiment fait du bien. Et puis aussi, tout bêtement, entre-temps, Joséphine, elle était plus grande et il y a une interaction qui s'est mise en place que j'avais très peu connu avec Héloïse. Quand Héloïse, on a commencé à avoir des interactions au sein, où le bébé commence à sourire, à regarder, pas juste à être en train de téter la tête enfouie dans le sein. En fait, pour Héloïse, c'est le moment où tous les problèmes d'abcès ont commencé. Donc, j'avais pas profité de cette période-là parce que j'avais la tête et le corps accaparés par ce qui allait être en abcès. Là, en fait, j'ai pu commencer à prendre plaisir et en fait découvrir pourquoi tous ces gens qui disaient que l'allaitement, c'est magique. Moi, je trouvais ça pratique, je trouvais ça satisfaisant, je trouvais ça sympathique. Mais le côté magique, je l'avais pas du tout vécu pour l'instant. Et ça, d'ailleurs, c'était dur quand j'ai décidé de sevrer Joséphine, de se dire que j'allais la sevrer avant même d'avoir pris plaisir, en fait. D'avoir été que dans le désagréable et de aucun moment avoir fait ça pour... que le jeu n'en valait pas du tout la chandelle, quoi. même si bon, elle a eu un peu de lait, ça vaut toujours le coup, je pense, de donner un peu de lait maternel à son bébé. Mais pour moi, ça n'avait pas été très, très intéressant. Et en fait, à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir des moments fantastiques d'allaitement. Enfin, je pense que vivent sans doute plein de mères, quoi. Le bébé qui envoie des grands regards d'amour pendant la tétée, qui fait des pauses en regardant, en faisant des grands sourires, des câlins ensuite. Enfin, voilà. Et puis moi, je sens encore, elle prend plaisir. Elle aime bien être allaitée. Elle prend très bien le biberon aussi. Donc là aussi, j'ai une chance incroyable, hein, parce qu'elle a...
Du coup, toi, tu peux lui donner le biberon comme le sein, c'est pas obligé que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Ouais.
Bah, au début, ça, on a mis toutes les chances de notre côté, hein. C'était plutôt le papa qui a donné le biberon au début. Tout au début, il était encore en congé paternité et ensuite, il a été en télétravail. C'est l'avantage d'un bébé en période Covid. Donc, c'est plutôt lui qui donnait les biberons, mais maintenant, moi, je peux lui donner un biberon. Alors, je le faisais plutôt en la mettant de dos à moi pour qu'elle n'ait pas trop les odeurs de lait, pas trop de confusion. Mais maintenant, je peux lui donner le biberon dans n'importe quelle position.
Ouais, elle passe de l'un à l'autre sans problème. Ouais.
Éventuellement, il y a même des moments où elle peut avoir eu son biberon et puis elle réclame quand même le sein. Je pense qu'elle il y a l'aspect émotionnel de la chose et puis elle tète un petit peu. Et ça, quand c'est le week-end, même si c'est pas... voilà, pour l'instant, en ce moment, j'allaite le matin et le soir. Mais si le week-end, elle veut téter un peu dans l'après-midi, je le fais. Enfin, voilà, maintenant, ça pose... J'ai plus du tout de... Enfin, je surveille quand même mes seins. Mais à 7 mois d'allaitement, il y a quand même moins de phénomènes de montée de lait, etc. Donc, je peux un peu plus faire les choses comme je le sens.
Et cette lactation, elle se maintient, en fait. À 7 mois, elle était matin et soir, finalement, c'est un truc... Voilà, t'es pas obligé de rebooster la lactation, ouais. Ça se maintient, c'est génial.
Bah, là, en tout cas, ça fait 2 semaines que j'ai supprimé le tirage de lait en journée, parce que je commençais à en avoir un peu marre. Et en fait, alors, comme elle était en allaitement mixte, moi, j'ai pas tiré pour lui donner du lait à elle. Parce que, de toute façon, c'était une charge mentale supplémentaire de devoir apporter mon lait à la crèche. Donc, c'était pas mon projet. Par contre, quelque chose qui, moi, me tenait à cœur, c'était de faire un don de lait pour un lactarium. Et donc, du coup, en fait, j'ai tiré pendant un mois, quand elle était à la crèche, je tirais une fois. À la fois, ça soutenait ma lactation et ça m'a permis de faire un don de lait au lactarium de Paris. Et c'est, voilà, ça faisait partie de mon projet d'allaitement à moi, de pouvoir... faire un don de lait, je ne peux pas trop expliquer pourquoi. Je pensais, moi, j'ai eu des bébés à terme, en bonne santé, donc j'avais envie de pouvoir donner quelque chose pour les enfants et les parents qui n'ont pas cette chance. Donc ça, je suis hyper contente.
C'est hyper généreux parce que c'est vrai que c'est des tirages qui auraient pu servir à ta fille, à la crèche, etc. Donc c'est hyper généreux de ta part d'en avoir fait profiter d'autres bébés.
Bah voilà, moi je savais que de toute façon, là, j'avais dû renoncer. Tôt pour Héloïse et tôt pour Joséphine, au concept d'allaitement exclusif. De toute façon, elles avaient du lait artificiel. Donc, voilà, pour moi, ça n'avait pas forcément du sens de... J'étais pas à cheval sur le fait qu'elles aient plus de lait maternel que ça. Et voilà, par contre, c'est sûr que donner son lait au lactarium, c'est un peu plus contraignant. Les conditions pour tirer sont un peu plus contraignantes que quand on le fait pour soi. Et c'est aussi pour ça que là j'ai été contente de supprimer le tirage en journée parce que ça prend quand même un petit peu de temps, donc on va voir si la lactation tient, mais finalement je me retrouve maintenant à pouvoir avoir un projet d'allaitement qui finalement est celui que j'ai toujours eu. C'est que moi j'ai jamais eu comme projet d'allaiter X mois ou très longtemps mon enfant. Moi mon projet ça a toujours été, moi j'ai envie d'allaiter, puis je le fais tant que ça me fait plaisir et que je sens que ça plaît à mon bébé. Et en fait, bah, ces difficultés m'avaient empêchée d'avoir ce projet jusque-là, parce que je me suis retrouvée contrainte d'arrêter pour Héloïse, et en fait, d'arrêter finalement non pour Joséphine. Et je pense aussi que de ne pas avoir de projet d'allaitement longue durée, ça ne m'a pas aidée. Peut-être que d'autres femmes, de toute façon, dans l'adversité, coûte que coûte, auraient voulu que ça marche. Parce qu'elles avaient un projet longue durée. Moi, j'avais pas cette motivation, en fait. J'avais pas du tout, même si je suis persuadée que le lait maternel, c'est ce qu'il y a de mieux pour le bébé, j'avais pas non plus, ça me posait pas de problème. J'ai pas cette croyance que c'est problématique pour un bébé de se retrouver au lait artificiel si c'est global. Enfin, faut mieux lui donner du lait artificiel et avoir une mère qui est pas au bout du rouleau que de l'allaiter coûte que coûte. Mais du coup, là, je me suis retrouvée dans cette situation, enfin, où je peux faire effectivement être juste dans le présent. Donc là, pour l'instant, ça convient à Joséphine, cet allaitement matin et soir, et en journée, le biberon. Ça me convient à moi. J'ai un peu en tête de le faire jusqu'à la fin de l'été parce qu'on va passer des vacances ensemble et que du coup, on aura le temps et que ça aura un côté pratique. Mmh. Je pense que peut-être que pour moi, à la rentrée, au niveau boulot, j'aurais peut-être envie de pouvoir reprendre encore plus de liberté, peut-être pouvoir aussi plus facilement ressortir le soir, etc. Mais on verra en septembre.
Porter, quoi.
Voilà, ouais. Exactement. Et, si et puis peut-être aussi que c'est Joséphine qui va se sevrer naturellement toute seule. Peut-être aussi que la lactation va, en fait, moins bien tenir avec juste 2 tétés par jour dans X semaines. Et bah, là, c'est OK aussi, en fait. Enfin...
En effet, il y a évidemment des risques dans ces cas-là que la lactation tombe un peu et que Joséphine se détourne du sein un moment. Mais puis peut-être pas du tout. Peut-être que ça peut continuer comme ça très longtemps. Toi, décider que tu peux sortir le soir et avoir un petit tire-lait nomade, tu vois, pour ce soir-là, si tu as envie. Toutes les options sont possibles. Le plus important, finalement, c'est que tu t'écoutes et que tu la regardes, elle, faire. Et à toutes les deux, vous allez trouver le bon équilibre. Exactement. Et c'est finalement ce que tu as fait au moment où tu as sevré. Tu t'es écouté, tu t'es dit que là, il fallait faire autrement puisque tu étais en train d'y perdre ta santé mentale. Et à t'écouter, finalement, tu as trouvé un équilibre qui vous convient à toutes les deux. Alors, génial. Finalement, c'est cet allaitement-là que tu voulais, peut-être.
Oui. Mais par contre, j'avais jamais songé à l'allaitement mixte avant, en fait. Il est venu tout seul. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu de la chance qu'elle accepte le biberon et qu'elle continue néanmoins à téter, oui, parce qu'il y a des bébés qui auraient pu, dans ces cas-là, soit refuser l'un ou l'autre.
Bien sûr.
Ça aurait pu amplifier ses difficultés de succion aussi, je pense, de passer au biberon encore plus. Là, non, elle a quand même réussi à améliorer la chose parce que je pense que maintenant, elle prend quand même relativement bien le sein. Et puis, ma lactation a tenu. Donc, il y a quand même beaucoup de paramètres que je maîtrisais absolument pas. Et pour le coup, alors autant j'ai eu plein de difficultés le premier mois, je peux presque dire j'ai pas eu de chance, mais autant sur la partie allaitement mixte, j'ai eu de la chance. Et donc, c'était le petit cadeau du sevrage. Mais comme quoi, de temps en temps, je pense que j'aurais pu aussi continuer. Enfin, ça aurait peut-être été moins vertueux de m'acharner, en fait, dans un allaitement exclusif. J'aurais peut-être déjà vraiment foncé droit dans une dépression postpartum. Peut-être aussi que... il y aurait eu des complications encore plus compliquées autour de l'allaitement, ou alors que me serais tellement dégoûtée que j'aurais fini par sevrer 2 ou 3 semaines plus tard et que là, j'aurais plus voulu entendre parler d'allaitement de près ou de loin.
Ouais.
Et que ça n'aurait pas réparé aussi, en fait, cette première expérience un peu en demi-teinte.
Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que du coup, là, la première expérience est réparée? Est-ce que si demain, ton allaitement se finit, etc., mais pour les bonnes raisons, pour celles que tu souhaites, est-ce que quel souvenir tu vas garder finalement de tout ça?
J'oublierai pas qu'il y a eu plein de choses compliquées et qu'il y a eu plein de choses douloureuses et c'est en même temps une belle leçon de vie aussi. Mais par contre. Je suis tellement reconnaissante de pouvoir vivre autant de plaisir à l'allaitement et je retiendrai ça. Et j'ai pas pour projet d'avoir un troisième enfant, mais si j'en avais un troisième, j'hésite pas à 30 secondes, je l'allaiterai. Et peut-être que s'il y aura encore des difficultés, alors dans ce cas-là, je viendrai te voir avec. Parce que visiblement, quand même, moi je trouve que les problèmes de succion des deux se ressemblent un peu. Mais peut-être, enfin, je pense que je tenterai le coup une nouvelle fois parce que
avec un objectif d'allaitement exclusif ou en te disant est-ce que le mix finalement c'est pas une bonne solution pour moi.
Le truc c'est que je sais pas si on peut vraiment mettre en place un allaitement mixte dès le début. Je pense quand même que pour la montée de la lactation, ça peut être quand même très compliqué. Là, j'ai quand même eu de la chance que ça tienne au bout d'un mois, mais il y avait quand même eu. Il y avait quand même eu un mois d'allaitement exclusif qui avait quand même, on avait passé les premiers pics de croissance. Donc je pense que si je veux vraiment allaiter, je pense qu'il faudra prendre le risque d'un allaitement exclusif. Mais, Mais maintenant, je connais la suite de l'histoire. Je sais à quel point ça peut vraiment être un énorme plaisir. Alors que quand, en décembre, j'étais dans ces difficultés-là, je n'avais pas idée que ça pouvait être aussi génial. Je pense que c'est un peu comme quand on vit les contractions au premier enfant et au deuxième. Au premier enfant, on imagine bien que ça, on va être content d'avoir son bébé dans les bras, mais ça fait quand même super mal. Au deuxième, on sait déjà que ça va s'arrêter, on sait qu'on va oublier la douleur des contractions, et puis on sait à quel point on va vivre des choses incroyables avec son enfant derrière. Donc, on vit les choses avec plus de philosophie, en fait.
Ouais, ouais, et plus de distance.
Là, je n'avais pas idée que ça pouvait être aussi intense, l'expérience d'allaitement, en fait. C'est un peu... je trouve ça assez indescriptible. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de plus proche après l'accouchement que l'allaitement de la vie in utero, en fait. J'ai l'impression que c'est un moment où on refusionne, en fait, le temps de l'allaitement. On est de nouveau en lien complet. Il y a quelque chose de sensoriel qui se passe, en fait.
Bien sûr.
Donc, oui, on ne sent pas le bébé bouger dans le ventre, mais ils font des petits mouvements. On les a dans le creux de nos bras. C'est un petit peu... Enfin, moi, je trouve que sur le plan émotionnel, c'est ça qui est le plus proche. Et du coup... Non, je conseillerais à n'importe qui, malgré toutes les galères que j'ai eues, je conseillerais à n'importe qui a envie d'allaiter de le faire. Par contre, il faut essayer d'être bien accompagné, il faut avoir en tête que c'est compliqué et je pense aussi que c'est pas parce que c'est compliqué, parce que moi, mon erreur là-dedans, ça a été de penser que c'était de ma faute. Et peut-être hein, en fait, il y avait quelque chose que j'ai mal fait et qui aurait pu tout régler, peut-être, hein. Mais j'ai tellement essayé que ce truc-là, s'il y a quelque chose que j'ai mal fait, c'est que on peut pas tout contrôler, quoi.
Non, on peut pas tout contrôler et t'as fait au mieux avec les armes que t'avais à cet instant-là. Donc en fait, t'as fait le mieux de ce que tu pouvais.
Ouais.
Il y a pas de bien ou pas bien, c'était comme ça.
C'est ça. Et du coup, je pense qu'il y a un aspect où on peut pas tout contrôler de ce qui se passe dans nos corps. On a tous des physiologies différentes. Et d'ailleurs, moi, j'ai vraiment vu des ressentis quand même différents sur le plan de la physiologie entre les deux allaitements. Enfin, ce côté soutenant de l'allaitement relativement à la fatigue sur mon premier allaitement que je n'ai pas du tout ressenti au deuxième, où j'ai plutôt senti que l'allaitement me fatiguait énormément. Et ça aussi, hein, une fois que je suis passée en allaitement mixte, j'ai senti aussi un soulagement physique assez rapide. Hein, je me sentais beaucoup moins fatiguée. J'avais beaucoup moins faim aussi. J'avais vraiment l'impression que l'allaitement me pompait. J'avais l'impression d'avoir besoin d'énormément manger. Enfin, c'est pas qu'une impression. D'ailleurs, j'avais vraiment très faim. Et dès que je suis descendue à 2-3 tétés, en fait, l'appétit a assez drastiquement s'est réduit, quoi. Donc, je pense vraiment que c'est que l'allaitement me pompait énormément. Et ça, je ne l'avais pas du tout ressenti pour l'aîné. Donc, je pense vraiment qu'il y a une physiologie qu'on ne maîtrise pas. Et puis, il y a le bébé en face qu'on ne maîtrise pas, y compris dans les galères qu'il a, que dans les facilités qu'il a à passer du biberon au sein.
Ouais.
Voilà, je pense que... je peux dire qu'on a donné les premiers biberons pour les deux, c'est le père qui les a donnés, que moi, j'ai fait attention de les mettre plutôt dos à moi pour pas qu'elles sentent trop le lait, que moi, j'étais assez alignée quand j'ai fait les choses sur le fait que pour Héloïse, que je voulais que ça se termine, que pour Joséphine, je voulais que ça se réduise. Donc, sans doute que ça a favorisé de la clarté pour le bébé. Elles n'ont pas pu taper dans mon ambivalence parce qu'à ce moment-là, il n'y en avait pas. Mais je pense aussi que j'ai eu de la chance. J'ai eu des filles qui étaient OK pour le biberon. Et, et ça, c'est pas que les choses que j'ai faites qui ont permis ça. C'est aussi...
Oui, il y a une part d'alchimie entre les différentes choses qui se mettent en place et qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Dans ton cas, ça a fonctionné. Et tant mieux. Puisque tu nous parlais du papa, j'ai juste une petite question. Est-ce que, tu vois, dans les prises de décision de « j'allaite pas, je sèvre, je sèvre pas », comment il se positionne le papa dans tout ça? Parce que si on comprend bien, en décembre, là, après ce premier mois d'allaitement de Joséphine, t'es épuisé, t'as mal et t'es à deux doigts de sombrer dans quelque chose qui psychologiquement est pas très confortable, on va dire. Alors lui, quelle position il prend dans tout ça? Est-ce qu'il te laisse finalement décider de tout? Est-ce qu'à un moment, il te dit, écoute, là, qu'est-ce qu'on fait parce que je te vois pas aller bien et comment on peut avancer? Quelle place il prend dans ses allaitements?
Alors, sur le coup, ça aussi, hein, ça jouait hein, quand ça allait pas. Clairement, ça a joué aussi sur notre couple, hein, parce que j'étais épuisée, parce que ça rajoutait beaucoup de tension. Donc ça aussi, ça a été une des choses qui a fait où je me suis dit, là, il va falloir retirer quelque chose de l'équation, parce que là, tout va aller dans le décor. L'allaitement n'en vaut pas la chandelle non plus. Donc, en décembre, je t'aurais dit, il n'est pas soutenant, etc. Moi, je crois que il a fait ce qu'il a pu. Alors, déjà, lui, il n'a pas été allaité. Donc, il vient pour le coup... il a des... ça ne vient pas naturellement. Voilà, lui, il n'a pas été allaité. Il n'a pas... Il vient d'une famille où il n'a pas vu d'autres enfants être allaités. Il se trouve aussi qu'il n'a pas beaucoup de cousins, ce qui est radicalement différent. Moi, dans ma famille, tout le monde a allaité. J'ai plein de cousines qui ont allaité. Enfin, j'ai grandi avec cet imaginaire-là, lui, pas du tout.
Il n'a pas de normalisation autour de ça.
Voilà. Bon, c'est un homme, donc nécessairement, lui, s'est jamais projeté. Enfin, ce genre de question de on allaite pas, il s'était posé à partir du moment où j'étais enceinte et que je voulais allaiter. Mais voilà, c'est des choses auxquelles ils réfléchissent très tardivement, en général, les pères. Il s'est informé sur les choses, il écoutait quand je lui parlais, mais c'est pas dans le tempérament un homme qui va chercher spécialement à avoir plein de connaissances sur la chose. Donc, mais par contre, il m'a laissé très libre, voilà, aucun moment, même si il s'est toujours réjoui de donner des biberons, de pouvoir enfin participer à la chose. Il a toujours dit qu'il trouvait que c'était très frustrant. Dans les phases où j'étais en allaitement exclusif, que ce soit avec Héloïse ou Joséphine, et où le bébé hurle parce qu'il a faim, et où moi je suis sous la douche, et où lui il peut rien faire, quoi. Donc ça, il trouve que c'est quelque chose de frustrant. Néanmoins, il a jamais questionné mes projets d'allaitement ou d'allaitement exclusif. Et à partir du moment où ça allait pas et où j'ai mentionné le sevrage, lui tout de suite a dit que c'était quelque chose qui était, enfin voilà, il m'a pas dit non, tu fais de l'allaitement inclusif, c'est ce qu'il y a de meilleur pour notre bébé, ça non. Il m'a pas non plus dit oui, passe absolument au sevrage, j'en ai ras-le-bol de tes problèmes. Voilà, il était en fait dans une certaine façon soutenant comme il le pouvait sur le projet que moi j'avais. En fait, il a bien compris que quelque part c'était ma décision et que c'était compliqué pour moi. Et il était soutenant dans le sens où, lui, son congé paternité, il l'a clairement passé à s'occuper de l'aîné, à faire le ménage, à faire à manger, à s'occuper de Joséphine dès que moi, j'étais pas en train de m'occuper d'elle. Donc, le congé pat a été très fatigant pour lui aussi, en fait. Parce que toutes ces galères ont résonné, en fait, sur l'énergie générale. Quand la nuit, il fallait réveiller Joséphine pour qu'elle la mette au sein, il était avec moi, il essayait de la stimuler aussi.
Était là, quoi, il était présent. Voilà. Il te suivait, il te laissait le choix. Ouais. Finalement, il n'interférait pas tellement dans les choix. Et puis, mais il était là, il était présent pour toi.
C'est ça. Et ça, je pense qu'en décembre, il y a eu des moments où j'ai eu l'impression de ne pas être soutenue. Même d'une certaine façon, ma sage-femme, la première fois que je lui ai dit « Oh, je réfléchis à sevrer au bout de 2 semaines », elle m'a plutôt encouragée à pas m'arrêter tout de suite. Et il y a eu une partie en tête, je me suis dit, elle me force un peu à continuer à allaiter, quoi. Et en fait, non, je pense qu'elle avait très bien compris qu'en fait, j'y tenais à cet allaitement et qu'en fait, elle essayait d'être la voix de la raison parce qu'elle sentait bien que moi, j'étais un peu en roue libre. Et puis, parce qu'elle avait en tête aussi que ça allait pas être si simple, qu'il y avait les pics de croissance. Enfin, d'ailleurs, elle me l'a expliqué, hein, sevrer un bébé au milieu des pics de croissance et de la deuxième montée de lait... c'est pas l'idée du siècle. Donc attention aux engorgements. Et elle me l'avait dit, hein, si vous voulez sevrer. D'ailleurs, à partir du moment où j'ai dit que j'allais sevrer, elle m'a accompagnée dans le sevrage de façon. Elle m'a pas culpabilisé deux secondes, au contraire. Enfin, voilà. Donc je pense que c'est très compliqué aussi dans toutes ces galères autour de la maternité. C'est que même si on est soutenu, à la fin, on est un peu seul face à nos corps, face à nos envies. Ce qui m'a le plus aidée, moi, là-dedans, c'est de discuter avec des copines. Déjà, d'ailleurs, dès qu'on a des galères, tout l'imaginaire qu'on a que ça a été simple pour les autres a tendance à se fissurer. C'est-à-dire que dès qu'on parle de ces galères, tout le monde vient en disant « Ah, mais non, mais en fait, pour moi non plus, ça n'a pas été simple. » Donc, par exemple, moi qui avais l'impression que toutes mes cousines avaient allaité et que ça avait été si facile, bah en fait, non. Il y en a qui ont eu plein de crevasses, qui se sont galérées, elles disent toutes, hein, il faut vraiment avoir la foi les premières semaines parce que c'est vraiment galère. Il y en a qui en fait ont arrêté, enfin, et en fait on n'en parle pas. C'est pour ça que je trouve que des podcasts comme le tien, c'est hyper important. C'est super de parler aussi quand ça se passe bien, parce qu'il ne faut pas inquiéter les femmes. Mais
ça, après, c'est... Le champ des possibles, c'est quand même intéressant.
Exactement. Après, c'est le tempérament de chacune. Moi, je préfère connaître à l'avance toutes les galères possibles et ne pas les subir, mais savoir qu'elles existent. Je sais que d'autres femmes, ça les inquiète énormément. Moi, c'est aussi lié à mon expérience. Moi, c'est plutôt le discours très « Non, mais il faut arrêter de faire peur aux femmes. Tout est très naturel. Tout se passe bien. C'est physiologique. C'est naturel. » Et puis, tout d'un coup, moi, j'étais confrontée au fait que si c'était physiologique et naturel, ça voulait dire que c'était vraiment moi qui étais nulle. Et ça, en fait, c'est plutôt quelque chose... Moi, c'est plutôt un discours qui m'a desservie. Ouais. Mais je ne doute pas que ce soit un discours qui en rassure d'autres. Mais bon, c'est pour ça que je trouve ça très bien qu'il y ait une offre variée.
Voilà, de à chacun sa façon de s'informer ou non, de vivre sa maternité et sa parentalité de la façon dont elle le souhaite. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait l'offre pour faire ce qu'on veut, finalement.
Exactement. Exactement.
Ok. Est-ce que Jeanne, avant qu'on se quitte, tu veux répondre à mon interview Fast Milk?
Ouais, je réalise juste qu'il y a un truc dont je n'ai pas du tout parlé, c'est le réflexe dysphorique d'éjection du lait et... Et ce truc, je ne sais pas si tu as déjà fait un épisode dessus aussi. En fait, la déprime arrive juste avant la montée de lait.
Et elle s'en va après.
Et ça s'en va. Ça dure une minute à peu près. Mais pendant une minute, tu es submergée. Alors moi, c'était une sorte de vague à l'âme, de nostalgie, un peu l'impression, un peu le sentiment, comme après avoir passé des vacances avec des amis et tu reviens et tu es toute seule, tu vois. Tu vois ce sentiment de vague à l'âme post-colo. Vraiment une anxiété quoi montante et, et j'ai mis du temps à comprendre et je suis sûre que ça a joué aussi dans mon état mental du premier mois en fait parce qu'en fait au bout d'un moment j'ai fini par taper dans Google déprime hormone allaitement parce que j'avais l'impression que ça arrivait souvent quand je la mettais au sein et oui, il y avait tout ça qui était compliqué, oui il y a tout un contexte personnel qui peut me créer de l'anxiété. Mais je me disais quand même, pourquoi je me sens comme ça, quoi. Enfin, je suis aussi hyper contente, là, de mes filles vont bien, etc. Et puis, je suis tombée sur ce truc. Et donc, ensuite, j'ai observé. Donc, je ne sais plus exactement... je crois qu'on ne sait pas exactement à quoi c'est dû, ce réflexe dysphorique d'éjection du lait. J'ai cru comprendre que ça ne touchait pas toutes les femmes, mais je crois que... je me dis qu'il n'y a peut-être pas... Ouais, maintenant, je me dis qu'il y a aussi peu d'études qui sont faites. Enfin, moi, je m'interroge sur combien de femmes qui vivent une dépression postpartum et qui allaitent. En fait, il y a peut-être ça qui rentre en jeu. Je ne sais pas du tout. Donc, je crois qu'il y a plusieurs pistes possibles. Globalement, ça serait quelque chose d'hormonal, en fait, une régulation hormonale qui se fait mal. Et donc, ensuite, après avoir compris que ce truc existait, j'ai observé. Et donc, j'ai senti qu'effectivement, j'avais ces vagues d'anxiété qui arrivaient. Et là, je regardais ma montre. J'attendais 30 secondes à une minute, je sentais la montée de lait. Donc, que ce soit aussi bien si j'allaitais, ça arrivait au moment où je la mettais au sein, la première minute, le temps qu'il y ait la montée de lait qui se fasse. Mais aussi entre les tétés, en fait, au moment où tu as la montée de lait. Donc, je ne sais pas, j'étais là, je donnais le bain à mon aîné, tout d'un coup, vague d'anxiété, je regardais ma montre, 30 secondes plus tard, je sentais les fourmillements dans le sein. Et à partir du moment où je l'ai su, je l'ai vraiment vécu différemment parce qu'en fait, tant que je ne le savais pas, quand il y avait cette montée d'anxiété, je crois que mon esprit cherchait la raison. Donc forcément, c'est facile de trouver quelque chose qui crée de l'anxiété quand on est on a un bébé de quelques semaines. Hein. Il n'y a pas de problème, il y en a à l'appel des choses qui peuvent être source d'anxiété. Et là, en fait, à partir du moment où je l'ai su, je l'ai juste vécu comme une contraction. Ah bon, voilà, il y a un moment d'anxiété qui arrive, ce n'est pas agréable, il va passer. Voilà, c'est passé. Et puis, je passais à autre chose, quoi. Et du coup, je pense que je l'ai peut-être encore un peu, mais je pense que je l'ai beaucoup moins aussi parce que j'ai beaucoup moins de phénomènes de montée de lait à 7 mois d'allaitement qu'au début. Ouais. Et aussi parce que je pense que, à partir du moment où il y a du plaisir qui s'est installé dans cet allaitement, il y a peut-être quelque chose qui s'est joué enfin au niveau hormonal. Alors, peut-être aussi que je l'ai eu parce que ça a été aussi compliqué, ça, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, peut-être que l'anxiété était contrebalancée par le plaisir. Ouais. Et aussi, ce que j'avais lu, c'est que ce qu'il faut quand on a ça, c'est trouver une distraction, éventuellement pendant qu'on allait, en fait, occuper son esprit à autre chose. Et moi, je ne pouvais pas, en fait, le premier mois, puisqu'il fallait tellement que je me concentre sur la position, sur ce qui se se passait, que j'allaitais en pleine conscience, que je pense que je me prenais cette anxiété de plein fouet. Et puis comme en plus c'était de l'anxiété de la mettre au sein, enfin je pense que tout a joué.
Oui, c'était décuplé.
La cata. Mais je suis vraiment certaine qu'il y avait ce truc en plus. Alors ça a peut-être été lié à tout ce tableau, hein, encore une fois, je n'en sais rien. Mais que, en tout cas, c'est resté au-delà de l'allaitement mixte. Ouais. Hein, et que je l'ai vraiment ressenti ensuite comme voilà, une anxiété qui était purement physiologique. Ce n'était pas que je n'aimais pas allaiter, ce n'était pas que la succion était désagréable, ou c'était totalement physiologique. Et ça passait comme c'est venu. Et vraiment, à partir du moment où je l'ai vécu, voilà, comme on vivrait une contraction, simplement c'est une douleur psychique plus que physique. Je l'ai beaucoup mieux vécu. Et ce réflexe dysphorique d'éjection du lait, en fait, je l'ai trouvé dans aucun bouquin. Je sais pas qui a fait un article en premier, et puis tous les blogs se le sont un peu copiés, donc on retrouve quelques éléments. Il y a un dossier de la Leche League.
On en a parlé dans l'épisode avec Julie Forillon. On en a parlé dans l'épisode sur grossesse, PMA, etc. Il me semble on a mentionné le réflexe d'éjection dysphorique parce j'avais fait un petit post à ce sujet après. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir ton témoignage là-dessus et puis le fait que tu vives ça comme, tu vois, avec le temps comme une contraction et le fait de, voilà, ça va passer, laisse-toi traverser et ça va partir, il n'y a pas de souci. Ça va être intéressant, je pense, comme témoignage pour les mamans.
C'est une très belle leçon de façon générale pour faire face aux émotions qui nous envahissent. Alors même si de temps en temps elles sont liées à un contexte qui n'est pas physiologique, mais en fait c'est une bonne. Enfin, j'ai trouvé ça très intéressant de dire qu'on pouvait être traversé par une émotion très désagréable et puis la laisser passer, quoi.
Ouais. C'est un bel exercice.
Ouais, voilà. J'ai pas eu le choix, mais j'ai beaucoup exercé.
Ok. Très bien. Est-ce qu'on a parlé de tout?
Je crois que c'est bon, là.
On y est, on passe à l'interview Fast Milk avant de se quitter. Jeanne, qu'est-ce que c'est ta tétée la plus insolite?
Ah oui, en plus, je l'ai entendu ça dans ton podcast et j'y ai pas réfléchi. Est-ce que j'ai eu des trucs... Oui, enfin, c'est pas si insolite que ça, hein, mais c'était pour Héloïse. On a eu un trajet en voiture en plein pic de croissance. Donc je crois que j'ai allaité sur une dizaine de parkings entre Paris et l'Auvergne, hein, puisqu'il a fallu s'arrêter, mais parfois on roulait une demi-heure, il fallait se réarrêter, et donc là j'ai allaité sur des coins de route, sur presque tous les parkings, ça n'arrêtait pas. Donc c'est pas très insolite, ça arrive très souvent d'allaiter sur des parkings.
Là c'était répété.
L'aspect répété, le trajet qui, sur le papier, durait, on avait 3 heures de route et ça a duré 7 heures. c'était assez, c'est un souvenir assez rigolo.
C'est quoi le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement? Ça peut être ironique. Là, je pense que t'en as des trucs pas glamour, toi.
Faire sortir du pu de son sein, c'était pas très glamour. Effectivement.
Quel bonheur. Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement, c'est quoi?
La position allongée, je sais plus si elle a un nom, pas la BN, celle sur le côté.
Les deux allongés?
Ouais, okay. Les deux allongés.
Et si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement, je te propose de me donner un mot pour le premier allaitement et un mot pour le deuxième.
C'est terrible, c'est dur. Non, pour le premier, franchement, ce qui me vient à l'esprit étonnamment, c'est pratique. Moi, j'ai trouvé que c'était pratique d'allaiter. Voilà, ça s'est mal fini, mais c'était pratique. Et le deuxième, je crois que je vais dire magique, comme disent plein de mères, mais réellement émouvant peut-être.
Okay.
Bien émouvant, c'est peut-être ce qui restera de mes deux allaitements, parce que ça relie bien les aspects agréables et plus compliqués.
Merci Jeanne de nous avoir livré ton témoignage.
Ben, merci à toi.
Témoignages même, merci. Qui sont intenses. Hein. Il s'en est passé des choses en deux allaitements.
Ouais,
et c'est pas fini. Bon, je te souhaite que ce soit calme pour la suite.
J'aimerais bien, mais bon, je crois que là, je suis passée à un stade où il ne peut plus trop y avoir de... Enfin, j'espère.
Mais de croisière, là, tu penses?
Je peux avoir un sevrage extrêmement compliqué, par exemple. Je vais peut-être me retrouver avec un bébé qui ne veut pas décrocher du sein. Hein. Peut-être que je l'allaiterai encore dans 3 ans ou 4 ans. On verra.
On verra. D'ici là, je te souhaite que ça devienne un long fleuve tranquille pour compenser les démarrages en trombe dans les deux cas. Et puis, écoute, si jamais un jour il y a un troisième, tu reviendras nous raconter la façon dont ça se passe. Est-ce que cette fois, c'est allaitement exclusif ou pas? Ou est-ce que, dans le fond, mis en place au début ou pas, mais est-ce que c'est le mix à toi qui te convient? Et en tout cas, voilà, c'est joli d'écouter une histoire comme ça où c'est pas le projet initial, mais que là où ce fleuve un peu tumultueux t'a emmené, ça te convient très bien et ça convient aussi probablement très bien à ta louloute. Alors voilà, c'est juste apaisant d'écouter la fin de l'histoire, même si au début on s'est senti un peu tendu avec toi.
Oui, moi aussi, j'ai été un peu tendue.
Je te dis merci et puis je te dis à très bientôt.
Merci.
Toi aussi, ton histoire vaut le coup d'être entendue. Tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience? Tu penses que cela pourrait aider d'autres mamans? Tu as désormais la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement. C'est très simple, tu te rends sur mon site internet charlottebergerot.fr ou milkshaker.fr, tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode de Milkshaker. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast, je vous rappelle que vous pouvez donc le noter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute et on peut se retrouver sur les réseaux @milkshakerpodcast pour échanger ensemble. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur mon site internet charlotte-bergerot.fr. Et si vous me cherchez en tant qu'ostéopathe, pour vous ou pour votre bébé, vous pouvez me retrouver à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, au centre IG4U que j'ai créé en 2020. Vous y trouverez aussi une équipe de thérapeutes spécialisée dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site IG4U, IG ça s'écrit YGY, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.